Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine à tous, merci d'être avec nous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le sort de Laurent Gbagbo. Jeudi, la Cour pénale internationale a examiné une nouvelle demande de libération provisoire de l'ancien président ivoirien, jugé pour crime contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2010-2011 dans son pays. Jusqu'à présent, vous le savez, les juges ont systématiquement rejeté cette éventualité. Les juges ont toujours estimé que l'ancien président pourrait profiter d'une liberté provisoire pour prendre la fuite. En tout cas, une décision était attendue vendredi. D'ailleurs, dans la journée, des milliers de personnes ont laissé éclater leur joie dans la commune de Yopougon, au nord-ouest d'Abidjan, fief de l'ancien président. Des milliers de personnes croyant que Laurent Gbagbo était sorti de prison. Mais ce n'était qu'une rumeur, puisque les juges de la CPI n'ont toujours pas annoncé leur décision. Laurent Gbagbo doit-il bénéficier de la liberté provisoire en attendant la fin de son procès? On en parle. On parlera tous ensemble évidemment dans une trentaine de minutes. D'ici là, vous continuez à nous rejoindre ici à Paris, 33 9 693 693 70. Vos réactions sur la page Facebook de l'émission, c'est promis, j'en lirai un maximum tout à l'heure. Elles sont nombreuses, vos réactions. Donc continuez, je lirai évidemment quelques extraits, puisque vous avez tendance à nous envoyer des messages particulièrement longs. Évidemment, je ne peux pas les lire, chaque message faisant une cinquantaine de lignes. Pensez à ceux qui nous appellent et qui ont la priorité évidemment, puisque priorité au standard, priorité en direct. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous sommes à quelques jours, à moins d'une semaine, des élections présidentielles, législatives et provinciales en République démocratique du Congo. Bonjour Rousseau.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Matadi et vous avez justement des questions concernant ces élections dans votre pays.
Oui Juan. Après l'incendie survenu dans un entrepôt de la CENI à Kinshasa, plus de 8000 machines à voter, des urnes, des isoloirs et des moteurs ont été détruits. La CENI assure que tout sera prêt le 23 décembre. Comment fera-t-elle pour remplacer les matériels détruits?
Oui, vous parlez de 8000 machines à voter parties en fumée. 8000 machines à voter sur les 10400 prévues pour Kinshasa, la capitale. On retrouve justement sur place Florence Maurice, correspondante permanente de RFI. Bonjour Florence.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, Florence Maurice. Le feu a brûlé 80% du matériel électoral destiné à la capitale. Comment la commission électorale compte-t-elle s'y prendre pour remplacer tout ce matériel d'ici la fin de la semaine?
Alors, la commission électorale prévoit de puiser dans ses stocks de secours en matière de logistique électorale. Il est habituel de commander plus de matériel que nécessaire pour pallier d'éventuelles pannes, par exemple, le jour du scrutin. En l'occurrence, la RDC a acheté environ 105 000 machines à voter pour 75 000 bureaux de vote et les proportions sont les mêmes pour le reste du matériel, une urne isoloir par exemple. Le problème, c'est que ce matériel de rechange a déjà été dispatché en province. Il faut donc le rapatrier en urgence à Kinshasa et ce n'est pas une mince affaire. Vendredi soir, par exemple, selon des sources à la commission électorale, elle était encore en train de localiser ces machines de surplus. Ça signifie que, visiblement, c'est le genre d'information qui n'est pas centralisée. Ça risque donc d'être un véritable casse-tête. Et puis, c'est inquiétant aussi parce que ça veut dire qu'en cas de panne, le jour du scrutin, eh bien, les délais de dépannage risquent d'être assez longs.
Oui, un défi de plus donc à relever avant le 23 décembre, avant dimanche prochain, alors que déjà, Florence Maurice, la commission électorale était loin d'être en avance.
Alors officiellement, la commission assure que le déploiement se poursuit selon son plan et que tout va bien. Vendredi, elle expliquait notamment que le matériel était déployé au niveau des villes et des territoires à 97%. D'abord, en soi, ce n'est pas très rassurant parce que cela signifie qu'il faut encore acheminer ce matériel jusqu'au bureau de vote. Et ce dernier tronçon est délicat, compte tenu entre autres de l'état des routes, et puisque la commission électorale refuse catégoriquement d'utiliser les avions de la MONUSCO. Et surtout, d'après les informations qui remontent du terrain, ce chiffre de 97% serait largement optimiste. Il y a encore beaucoup de sites où on nous signale que les machines ne sont pas arrivées. Mais ce n'est pas tout, Juan. Pendant des semaines, les observateurs se sont focalisés focalisé sur la machine à voter, mais il y a 10 jours, on a appris que les procès-verbaux vierges et les fiches de résultats, qui sont indispensables pour obtenir les résultats de l'élection, étaient encore en cours d'impression en Afrique du Sud. Samedi dernier, le président de la commission électorale s'est rendu lui-même en Afrique du Sud pour superviser leur envoi jusqu'en RDC. Des documents qu'il va ensuite falloir acheminer là aussi dans les 75 000 bureaux de vote. Un vrai défi qui laisse perplexe de nombreux observateurs à une semaine de l'élection. Rappelons que selon le calendrier de la commission électorale, ces procès-verbaux vierges auraient dû arriver dans les sites de formation des chefs de bureaux de vote au plus tard le 5 décembre. Oui. Et la crainte de beaucoup d'observateurs, eh bien, c'est que dans ces conditions, si elle a lieu, l'élection ne soit que très partielle et n'ait pas lieu sur tout le territoire.
Oui, le pays sera-t-il prêt le jour J? On aura l'occasion évidemment de vous donner la parole cette semaine à quelques jours de ces scrutins hautement importants en République démocratique du Congo. Vous aviez une autre question, Rousseau?
Oui, Juan. Puisque des policiers étaient en charge pour la garde du site, des failles au niveau de la sécurité ont-elles été constatées?
Ah, bonne question, d'autant que Florence Maurice, cet entrepôt de la commission électorale, était situé dans un endroit réputé ultra sécurisé.
Et oui, un site qui appartient en fait aux États-Unis, qui prévoient d'y installer leur future ambassade. Il y avait donc deux niveaux de sécurité, une compagnie de sécurité privée américaine, très réputée, et le cordon sécuritaire de la commission électorale. Et puis, ce site est situé à environ 200 mètres de la principale base logistique de l'armée congolaise, tout près aussi de la haute cour militaire. Et si on regarde une vue aérienne de l'endroit, on voit que cet entrepôt se trouve dans un endroit très difficile d'accès par des parcelles voisines. D'où cette question que beaucoup se posent, comment un incendie criminel a-t-il pu être déclenché dans un pareil endroit? L'enquête n'a pas encore permis de le savoir, selon les autorités. Une source proche du pouvoir indiquait seulement la semaine dernière qu'il aurait pu y avoir des complicités.
Est-ce que des mesures ont tout de même été prises pour protéger les autres sites de la commission électorale?
Alors, dans un point de presse vendredi dernier, Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement congolais, a assuré que le niveau de sécurité était renforcé, mais il n'a pas souhaité dévoiler le détail du dispositif. Et cela n'a pas empêché, samedi dernier, encore dans la nuit de samedi à dimanche, une attaque par des hommes armés dans un autre entrepôt de la CENI à Beni, cette fois en face de la résidence du chef de l'État, même si cette fois-là, le matériel n'a pas été touché. À propos de cet incendie, il faut rappeler aussi que d'autres questions se posent sur la sécurité, et notamment, comment se fait-il que les secours aient mis 2 heures à arriver sur place, alors que la police anti-incendie est située à moins d'un kilomètre du site? Et il serait arrivé donc à 4 heures du matin, alors qu'à cette heure-là, le conseiller diplomatique du président Kabila était déjà en train d'alerter la presse pour qu'elle vienne couvrir l'événement.
À suivre donc. En tout cas, vous êtes sur place en République démocratique du Congo. Appelez-nous, vos témoignages évidemment nous intéressent. C'est la dernière ligne droite de cette campagne électorale en vue de ces élections tant attendues. Merci Florence Maurice, bonne journée à vous. On remercie évidemment Rousseau, qui nous appelait de Matadi. Il est 9h19 ici à Paris. Ce sont vos questions et nous avons reçu plusieurs questions pour comprendre cette affaire qui empoisonne depuis maintenant 2 semaines les relations entre Washington et Pékin. C'est l'affaire Huawei, du nom du géant chinois des télécoms. Stéphane Lagarde, bonjour.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. On vous a contacté ce matin, Stéphane, puisque vous êtes le correspondant permanent de RFI à Pékin. Et cette affaire suscite de nombreuses questions standards depuis quelques jours. On va commencer avec Mofu, qui est à Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour Mofu.
Bonjour Juan.
Bienvenue, nous vous écoutons avec Stéphane Lagarde.
D'accord. Ma question est la suivante. Une dirigeante du groupe Huawei vient d'être libérée sous caution par un juge canadien. Elle avait été arrêtée sous demande des États-Unis car elle aurait violé les sanctions américaines contre l'Iran. Mmh. Alors, ma question est comment expliquer son arrestation au Canada alors qu'elle dirige un groupe chinois et que les sanctions américaines ne concernent que l'Iran?
Alors, c'est une question évidemment tout à fait légitime. Stéphane Lagarde, effectivement, Madame Meng, puisque c'est son nom, a été arrêtée au Canada le 1er décembre. Elle a ensuite été libérée sous caution dans l'attente d'une procédure d'extradition vers les États-Unis, puisque ce sont les Américains eux-mêmes qui ont demandé son arrestation. Expliquez-nous pourquoi.
Alors, ce que demande la justice américaine, Mofu, c'est d'abord que Madame Sabrina Meng Wanzhou, hein, on l'appelle comme ça en Chine, aurait pris, dit la justice américaine, différents détours, en tout cas, elle aurait contourné l'embargo américain sur l'Iran, et ça lui aurait permis de vendre des technologies à Téhéran. L'héritière et directrice financière du géant des télécoms chinois aurait, selon les Américains encore, hein, menti à plusieurs banques, en particulier au groupe bancaire britannique HSBC, au sujet d'une filiale de Huawei, cela afin d'accéder au marché iranien. C'était entre 2009 et 2014, ce que Washington évidemment interdit. Plus précisément, Mofu, les États-Unis affirment que Meng Wanzhou aurait dissimulé des liens entre Huawei et Skycom. Skycom, c'est un petit revendeur d'équipements télécom hongkongais qu'on connaissait pas, hein, jusqu'à présent, mais il se trouve que Sabrina Meng a été membre du conseil d'administration de Skycom, donc ce groupe hongkongais, entre février 2008 et avril 2009. Et pour les Américains, Skycom serait toujours en réalité une filiale non officielle de Huawei, ce que dément le groupe chinois Huawei, hein, Huawei qui affirme s'être séparé depuis très longtemps de Skycom maintenant. Ça a été flou au début. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Madame Meng, vous avez raison, Mofu, est chinoise, elle possède un passeport hongkongais. On sait aussi qu'elle a fait de nombreux séjours au Canada où elle possède des propriétés. Le gouvernement chinois dénonce donc avec force ce qu'il qualifie d'entrave au commerce et même de violation des droits de l'homme. Ce sont les mots, hein, du porte-parole de la diplomatie ici. Le problème, c'est qu'on est dans une affaire très compliquée, vous l'avez compris, et que sur ce genre d'affaires, eh bien, il faut du temps, la justice demande du temps. Or, il y a une question de contexte, on sait que c'est arrivé pendant la guerre commerciale, hein, vous en avez parlé, on en a parlé beaucoup sur RFI, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et pour les éditorialistes chinois, ici, eh bien, c'est un coup de Donald Trump, cette affaire, ce dernier ayant jeté de l'huile sur le feu, hein, dans un Twitter encore la semaine dernière, en disant qu'il allait se servir de cette affaire Huawei dans ses négociations avec Pékin. Et puis l'autre contexte, c'est important, Mofu, c'est celui de la crainte grandissante de nombreux pays vis-à-vis des technologies du groupe chinois et la peur notamment que ces technologies soient détournées à des fins d'espionnage. Plusieurs pays d'ailleurs, Juan, on en avait parlé également, ont refusé la 5G de Huawei.
Oui, en tout cas, certains l'affirment et vous en parliez à l'instant, Stéphane Lagarde, c'est vrai que beaucoup de voix chinoises estiment que l'arrestation de cette femme, Madame Meng Wanzhou, n'est autre que l'une des conséquences de la guerre économique commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis. Alors, suite à l'arrestation de Madame Meng, la Chine a arrêté deux ressortissants canadiens. Simon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Brazzaville, nous vous écoutons.
Ma question est tout juste de savoir s'il y a un lien entre la libération au Canada de la responsable de la compagnie chinoise. Quel jour vous parlez?
Alors, vous avez la radio d'allumer, j'imagine, Simon, parce que j'entends le retour et ça vous perturbe, ça déstabilise évidemment. Alors, effectivement, Stéphane Lagarde, l'arrestation de ces deux Canadiens apparaît pour beaucoup comme une mesure de représailles de la part de Pékin, puisque rappelons que Madame Meng Wanzhou a été arrêtée au Canada.
Oui, alors, sauf que ici, c'est pas officiel, ça. Évidemment, le porte-parole de la diplomatie chinoise, puisque c'est lui qu'on voit, hein, ici, c'est lui qui s'adresse aux journalistes tous les jours, dans son point de presse quotidien, jusqu'à vendredi dernier, en tout cas, le porte-parole de la diplomatie chinoise a refusé de faire le lien, justement, entre ces deux affaires. On peut peut-être quand même dire un mot de ces ressortissants canadiens qui sont arrêtés, parce qu'a priori, ils ont rien à voir avec cette affaire Huawei, hein. Ce sont deux Michael, en plus de l'ex-diplomate et responsable du bureau de l'ONG International Crisis Group à Hong Kong, Michael Kovry. Un autre Canadien a été arrêté, il s'appelle Michael Spavor. L'ambassadeur du Canada à Pékin a pu lui rendre visite ce dimanche. Cet homme d'affaires travaille depuis plusieurs années avec la Corée du Nord. Il a été professeur à Pyongyang, Michael Spavor. Il a eu une école à Dandong, une ville chinoise à la frontière avec la Corée du Nord. Il accompagne souvent les délégations étrangères qui s'intéressent à la Corée du Nord. C'est quelqu'un qui a beaucoup contribué, notamment aux échanges sportifs avec la Corée du Nord. On le dit par exemple que c'est un proche de Dennis Rodman, vous savez, ce basketteur américain qui a été voir Kim Jong-un. Voilà, donc a priori, Michael Spavor et Michael Kovrig n'ont rien à voir avec cette affaire Huawei. Tous les deux ont été arrêtés la semaine dernière. Tous les deux sont accusés, alors là c'est très grave en Chine, d'avoir menacé la sécurité de l'État chinois. Évidemment, là encore, effectivement, Simon, c'est un contexte. Hein. Il y a eu cette affaire Huawei, comme par hasard, juste derrière, il y a ces deux arrestations. Ah oui. Le Canada a pu se rendre auprès de Michael Spavor et de Michael Kovrig, mais enfin, on n'en sait pas plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'arrive pas par hasard, ça arrive dans un contexte, encore une fois. Et la diplomatie chinoise, pour l'instant, refuse de faire le lien, mais beaucoup, ici, non officiellement, et puis ailleurs, beaucoup de commentateurs, évidemment, voient un lien très fort et une espèce de bras de fer en ce moment diplomatique entre Ottawa et Pékin.
Oui, beaucoup voient dans ces deux Canadiens une sorte de monnaie d'échange pour Pékin pour essayer de récupérer au plus vite Madame Wang Wazhou. Merci beaucoup Stéphane Lagarde d'avoir été avec nous en direct de Pékin. On remercie évidemment Simon et Mofu, tous les deux qui s'intéressaient donc à cette affaire Huawei. On aura l'occasion de la suivre évidemment de près car elle risque encore de s'éterniser. La dernière question du jour, elle nous est posée par Janvier. Bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Bienvenue sur l'antenne de RFI, vous êtes à N'Djamena, on vous écoute.
Oui Juan, suite au mandat d'arrêt international lancé par la Cour pénale contre Patrice-Édouard Ngaïssona, l'ex-chef de groupe anti-Balaka, les autorités françaises ont procédé à son arrestation le mercredi dernier. Mmh. Dès lors Juan, j'aimerais savoir quels sont exactement les faits qui lui sont reprochés. Son arrestation a-t-elle des liens avec l'extradition du député Rambaud le mois dernier à La Haye par la République centrafricaine?
Ah, là aussi, bonne question. C'est vrai que cette arrestation intervient 3 semaines après le transfert à la CPI d'Alfred Yekatom, surnommé Rambo, lui aussi ancien chef de milice anti-Balaka en Centrafrique. Bonjour Florent Gel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Concrètement, quels sont les faits incriminés par la CPI concernant donc Patrice-Édouard Ngaïssoma, interpellé il y a quelques jours en banlieue parisienne?
Alors, ils lui sont reprochés des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Des meurtres, des tentatives de meurtre, des faits de torture, le fait d'attaquer les populations civiles, etc. Il y a une vingtaine de chefs d'inculpation à son encontre. Pour avoir commis ces crimes entre le 5 décembre et 2013 et au moins en décembre 2014, dans différents lieux du territoire centrafricain, Bangui notamment, puisque c'était plutôt sa base connue et reconnue, et puis dans d'autres lieux aussi de la Centrafrique, Lobaye, Yaloké, Gaga, Bossambolé, Bona, etc. Et on le soupçonne d'avoir, il ne peut pas avoir commis tous ces crimes tout seul, évidemment, mais de l'avoir fait conjointement avec d'autres personnes ou par l'intermédiaire d'autres personnes, ou d'avoir même apporté son aide ou toute assistante pour la commission de tels crimes.
L'arrestation, justement, de Ngaïssoma la semaine dernière intervient 3 semaines après l'extradition à la CPI de Rambo. Faut-il y voir un lien entre ces deux affaires?
Alors, oui et non. Les faits précis qui sont reprochés à chacun d'entre eux sont assez individuels, puisque par exemple pour Yekatom, pour Alfred Yekatom dit Rambo, c'est plutôt des faits qui se déroulent à Bangui et à Bimbo, là où il était plutôt originaire également. Mais oui également parce que les deux se sont probablement entendus, notamment dans cette fameuse attaque du 5 décembre, une attaque coordonnée des anti-Balaka sur Bangui pour répondre au Séléka qui avait pris la ville 6 mois plus tôt. Donc de ce point de vue-là, il est possible que les deux dossiers se rejoignent.
Mais en tout cas, il s'agit de deux anti-Balaka, et certains s'étonnent en Centrafrique que la CPI ne s'intéresse qu'aux anti-Balaka, alors que les combattants ex-Séléka ont également commis des crimes.
Bien sûr, et alors la procureure, je crois, on est conscient et le répète en disant c'est pas fini, il y aura d'autres arrestations, on l'espère. En tout cas, les autorités centrafricaines, elles, ont déjà agi, puisque c'est passé assez inaperçu, mais le numéro 2 de l'UPC, Didier Wangai, a lui été arrêté à Bambari il y a une quinzaine de jours. Et Didier Wangai, c'est le numéro 2 de l'UPC, l'Union pour la paix en Centrafrique, qui est dirigé par un groupe politico-armé, qui est dirigé par Ali Daras, qui a été créé en 2014, et qui sont des Séléka, hein, même si les Séléka se sont éclatés en plusieurs groupes en 2014, mais c'était un Séléka. Donc celui-ci, est-ce que Didier Wangai pourra être jugé, peut-être à Bangui, mais il sera jugé pour faire en sorte que la lutte contre l'impunité, effectivement, ne soit pas à sens unique, d'autant plus que les Séléka ont commis de très nombreuses exactions lors de leur prise de pouvoir et ensuite, et ouais, toujours encore actuellement.
Évidemment. Merci beaucoup Florent Gel d'avoir pris quelques minutes ce matin pour répondre à Janvier qui nous appelait de N'Djamena. Je rappelle que vous êtes le responsable Afrique de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. À suivre le journal et on revient dans tout juste 10 minutes pour parler de Laurent Gbagbo. Doit-il bénéficier d'une liberté provisoire en attendant la fin de son procès?